Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 continuent en ce mois de septembre 2021 et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. L'Argentine proteste officiellement contre le Chili qui a déclaré qu'une partie du plateau continental de l'Atlantique au Sud lui appartenait. L'Argentine se rend aux urnes pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, alors que les infections continuent de diminuer. Malgré le dialogue engagé au Mexique, le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré qu'il n'y aurait pas d'impunité pour le chef de l'opposition Juan Guaido. La criminalisation de l'avortement est inconstitutionnelle au Mexique. La Cour suprême du Salvador a permis la réélection du président soulevant des protestations. Dans un scandale qui dépasse le cadre sportif, les autorités sanitaires interrompent le match de qualification Brésil-Argentine. Le président brésilien Jair Bolsonaro a menacé la Cour suprême et plusieurs médias locaux ont parlé de menaces de coup d'État. L'Argentine a formellement protesté contre le Chili qui a déclaré comme sien un territoire maritime de quelque 5000 km² dans l'Atlantique Sud. Dans une note officielle, le ministère argentin des Affaires étrangères condamne la vocation expansive de Santiago et remet en cause, dans tous ses termes, le décret qui a entraîné la controverse. Il y a 15 jours, le président Sebastián Piñera a signé une résolution visant à actualiser la cartographie navale de son pays. Sur les nouvelles cartes, un fragment en forme de croissant situé dans le passage de Drake entre les océans Atlantique et Pacifique apparaît comme territoire chilien. Selon Buenos Aires, cette annexion viole un traité de 1984 qui a réglé le différend relatif au canal de Beagle, lequel a failli conduire les deux nations à la guerre en 1978. Selon ce pacte, dont la médiation a été assurée par le Vatican, le 67e méridien partant de la pointe sud du continent établit les frontières maritimes entre les deux pays. Ainsi, le Chili se déplace vers l'ouest le long de la ligne et l'Argentine vers l'est. Mais sur la nouvelle carte, les territoires contestés sont clairement à l'est de la frontière établie. En outre, a souligné le ministère argentin des Affaires étrangères, les revendications de Santiago s'étendent également sur plus de 20 000 km de territoires maritimes qui sont des sites du patrimoine mondial. Vendredi dernier, malgré les plaintes de Buenos Aires, Piñera a ratifié sa position et a déclaré que le Chili exerce ses droits légitimes. Il a également affirmé que revendiquer cette zone est une obligation et que l'action de son gouvernement a le soutien de tous les partis politiques et des anciens présidents. Malgré les frictions, les deux gouvernements ont réaffirmé leur intention de résoudre le différend par le dialogue. Les infections au coronavirus en Argentine continuent de diminuer et sont à leur plus bas niveau depuis un an, tout comme l'occupation des lits de soins intensifs. Lundi 6 septembre, par exemple, moins de 4000 nouveaux cas et 162 décès ont été signalés. Certains responsables de la santé ont même reconnu qu'il pourrait ne pas y avoir de troisième vague en Argentine. Dans ce contexte, dimanche 12 septembre, se tiendront les premières élections dans le pays depuis le début de la pandémie. Pour ces élections parlementaires de mi-mandat, les autorités ont mis en place davantage de bureaux de vote afin d'éviter les foules et de prévenir les infections. Par ailleurs, le gouvernement argentin a introduit une carte d'identité numérique pour voyager à l'étranger et prouver la vaccination contre le coronavirus. La certification sera téléchargée sur une application pour téléphone portable qui affichera un code QR que les autorités d'immigration pourront scanner. Entre-temps, l'Argentine a reçu plus de 57 millions de vaccins et le premier lot de Pfizer devrait arriver cette semaine avec 260 000 doses. Le gouvernement argentin a contracté un total de 20 millions de doses auprès du laboratoire américain qui a réalisé une partie de ses tests de phase 3 en Argentine entre août et novembre 2020. Sur une population de 45 millions de personnes, 28 millions ont reçu au moins une injection et plus de 16 millions ont conclu leur calendrier de vaccination. Dans ce contexte, le président Alberto Fernández a souligné que cette campagne était la plus vertigineuse de l'histoire et a célébré le fait qu'elle a non seulement sauvé des vies, mais qu'elle rend également possible la reprise économique. À propos de cette réactivation, Le président a prédit que la croissance en 2021 sera de 7% par rapport à 2020 et a souligné que les exportations sont à leur plus haut niveau depuis 8 ans. Entre-temps, Cuba est devenu le premier pays au monde à commencer à vacciner les enfants âgés de 2 à 11 ans contre le coronavirus en utilisant ses propres vaccins Soberana et Abdala. Le Chili, quant à lui, a prouvé l'utilisation de l'inoculant d'origine chinoise CoronaVac pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Selon le gouvernement vénézuélien, il y a eu des avancées dans les négociations avec l'opposition qui se déroule au Mexique avec la médiation de la Norvège. L'ambassade de Norvège a publié la première photo des deux délégations autour d'une table, tout en soulignant la participation de la Russie et des Pays-Bas au dialogue. Le processus est fondé sur un protocole d'accord portant sur certains points de discussion fondamentaux convenus au début du mois d'août. Le camp de l'opposition réclame, entre autres, des garanties de participation aux élections et des engagements en matière de droits politiques. Dans le même temps, le gouvernement du président Nicolas Maduro demande la fin des sanctions économiques imposées par plusieurs États, notamment les États-Unis, sur les actifs financiers vénézuéliens. La délégation de l'opposition a précisé que rien n'a encore été convenu, bien que son porte-parole, Gerardo Blaide, ait reconnu la nécessité pour chacun d'entre nous de baisser son arrogance afin de faire progresser les négociations. Malgré ces signes prometteurs, Maduro a écarté la possibilité que le Mexique accorde l'impunité au principal leader de l'opposition, Juan Guaido, que plusieurs gouvernements reconnaissent comme président en charge du Venezuela. « Je rêve du jour où Guaido paiera », a-t-il déclaré à la télévision. Dans d'autres nouvelles d'Amérique latine, un scandale secoue le Chili car il est apparu que l'un des vice-présidents de la toute nouvelle Assemblée constituante a menti en déclarant qu'il souffrait d'un cancer. Rodrigo Rojas Vade avait affirmé qu'il se battait contre une leucémie depuis des années et que son cas reflétait l'inégalité d'accès aux soins de santé dans son pays, l'une des revendications des manifestations de 2019. Cependant, dans une vidéo publiée ce week-end, Rojas Vade a admis qu'il n'avait jamais eu de cancer et que sa maladie était tout autre sans l'identifier. Après ses aveux et la polémique, il a démissionné de la Convention qui travaille à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour remplacer celle sanctionnée par la dictature d'Augusto Pinochet en 1980. La criminalisation de l'avortement est inconstitutionnelle au Mexique, une décision historique dans ce pays conservateur et très catholique. La Cour suprême a statué inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement à l'occasion d'un vote mardi 7 septembre à l'unanimité en réponse aux articles du Code pénal de l'État de Coahuila qui sanctionnaient jusqu'ici les femmes qui se faisaient avorter avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. C'est un pas de plus dans la lutte historique pour l'égalité des femmes, la dignité et le plein exercice de leurs droits, a déclaré le président de la Cour, Arturo Saldívar. Ce vote ouvre la voie à l'accès à l'avortement pour toutes les femmes du pays. À partir de maintenant, il ne sera pas possible, sans violer les critères du tribunal et de la Constitution, de poursuivre une femme qui avorte dans les cas validés par ce tribunal, a conclu Saldívar. Après l'entrée en vigueur d'une loi particulièrement restrictive en matière d'avortement au Texas, l'horizon international du droit des femmes à disposer de leur corps s'est éclairci. Écoutons un rapport de France 24.
C'est un jour historique pour les droits de toutes les Mexicaines.
Après 2 jours d'examen et un vote à l'unanimité, la Cour suprême du Mexique a rendu son verdict.
Désormais, il ne sera pas possible, sans violer les critères de la Cour et de la Constitution, de poursuivre une femme qui avorte.
Dans ce pays fédéré, les États sont autonomes dans l'adoption de leurs lois. Mais ces dernières peuvent être invalidées si elles contreviennent à des arrêts de la Cour suprême. Cette décision établit donc une jurisprudence pour tous les tribunaux mexicains. Les 10 juges présents ont tenu bon, malgré la pression de militants anti-avortement.
Je suis déçue, en colère, frustrée par nos représentants parce que nous les avons mis là pour faire un travail décent. Les plus innocents doivent être protégés. Nous sommes la voix de ceux qui n'en ont pas.
Dans certains États, le recours à l'IVG est sanctionné par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Désormais, les femmes qui vivent dans ces États pourront avoir accès à l'avortement sur décision d'un juge et les prisonnières pourront être libérées.
La décision de la Cour suprême me semble appropriée. Magnifique, c'est une nécessité sociale et historique de la société mexicaine.
Après Mexico en 2007, Oaxaca, Veracruz et Hidalgo, la liste des États autorisant l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse ne cesse de s'allonger.
Au Salvador, la Cour suprême a autorisé le président Nayib Bukele à se représenter et il pourra briguer un second mandat lors des élections de 2024. La Cour suprême a interprété la constitution salvadorienne comme stipulant que les présidents peuvent rester au pouvoir jusqu'à 10 années consécutives. Selon les détracteurs de Bukele, l'arrêt ne tient pas compte du fait que la constitution stipule que les présidents doivent attendre une décennie après la fin de leur mandat pour se représenter. Il convient de rappeler que plusieurs des magistrats de la Cour ont été récemment nommés par un parlement majoritairement pro-gouvernemental après avoir révoqué les membres qui étaient en conflit avec Bukele. En raison de cette action, le rapporteur de l'ONU pour l'indépendance de la justice, le Péruvien Diego García Sayán, s'est dit consterné par ce qu'il a appelé les mesures autoritaires de Bukele et de l'Assemblée. Human Rights Watch a averti que la démocratie au Salvador était au bord de l'abîme. Dans le même temps, le gouvernement américain a déclaré que la décision du tribunal salvadorien porte atteinte à la démocratie et a rappelé que la Constitution interdit la réélection. Bukele, 40 ans, est sorti renforcé des dernières élections législatives, lors desquelles son parti Nuevas Ideas a remporté près de 70% des voix. Cette victoire retentissante lui permet d'aller de l'avant avec des mesures controversées, telles que la révocation des juges et la mise en œuvre du Bitcoin comme monnaie légale à partir du 7 septembre. Dans d'autres nouvelles régionales, au Nicaragua, la justice a envoyé 3 opposants en procès pour atteinte à la souveraineté nationale et promotion d'une intervention étrangère. Ces derniers mois, plus de 30 dirigeants opposés au gouvernement du président Daniel Ortega ont été arrêtés pour les mêmes motifs. Parmi elles figurent plusieurs pré-candidats à la présidence qui prévoyaient de se présenter aux élections du 7 novembre. Ces arrestations signifient qu'Ortega tentera d'obtenir son 4e mandat consécutif sans pratiquement aucun rival de poids. Sport. La rencontre tant espérée entre le Brésil et l'Argentine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar s'est terminée par un scandale qui a transcendé les questions sportives. Moins de 6 minutes après le coup d'envoi au stade Neoquímica de la ville de São Paulo, des membres de l'agence de santé brésilienne, l'Anvisa, sont entrés sur le terrain et ont forcé la suspension. Les inspecteurs de l'Anvisa voulaient interpeller 4 joueurs argentins qui, selon eux, avaient violé les protocoles du Brésil relatifs au coronavirus. Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso et Emiliano Buendia, qui jouent dans la première ligue anglaise. Selon l'Anvisa, les 4 Argentins avaient falsifié leur déclaration sous serment lors de leur entrée dans le pays et omis de dire qu'ils avaient séjourné moins de 14 jours auparavant au Royaume-Uni, un pays à risque selon Brasilia. L'équipe argentine a quitté le terrain après quelques minutes, tandis que les Brésiliens sont restés près d'une heure jusqu'à la suspension définitive par l'arbitre. La Fédération argentine de football affirme que la controverse concernant les 4 joueurs en question avait été résolue avant le début de la rencontre. Selon l'AFA, la FIFA et la CONMEBOL, la plus haute autorité du football sud-américain, avaient autorisé Martinez, Lo Celso et Buendia et Romero à jouer. Mais l'Anvisa et le gouvernement brésilien affirment qu'aucun accord n'a été conclu et que la CONMEBOL a été informée 50 minutes avant le match que les 4 hommes devaient quitter le pays. La controverse sera maintenant résolue par la FIFA qui a ouvert une procédure permettant à chaque partie de présenter sa position. L'instance dirigeante du football mondial peut ordonner l'arrêt du match ou décerner les 3 points à l'une ou l'autre équipe. Par ailleurs, l'Argentine a clôturé à Tokyo 2020 sa meilleure participation aux Jeux paralympiques depuis Atlanta 1996. La délégation composée de près de 60 athlètes revient avec 5 médailles d'argent, 2 en athlétisme, 2 en natation et 1 en football. Le tableau de Tokyo 2020 est dominé par la Chine avec 207 médailles, suivi par le Royaume-Uni avec 124 et les États-Unis avec 104. La crise politique et institutionnelle au Brésil continue de s'aggraver avec la confrontation entre le gouvernement du président Jair Bolsonaro d'une part et le Congrès et la Cour suprême d'autre part. Mardi 7 septembre, des milliers de partisans de Bolsonaro ont défilé dans plusieurs villes en réponse à l'appel du président à manifester contre la Cour suprême. Dans la capitale Brasilia, la sécurité a été renforcée autour du palais de justice, de peur qu'il ne soit envahi, comme cela s'est produit à Washington en janvier dernier, lors des derniers jours de la présidence de Donald Trump. L'événement a été accompagné par le bruit des tirs de chars, rappelant le soutien explicite au chef de l'État de larges secteurs des forces armées et de sécurité. Avant la mobilisation, Bolsonaro avait lancé un ultimatum à la cour que beaucoup ont qualifié de menace de coup d'État. Dans un message à ses partisans, il a prévenu « Soit le chef de la cour met les siens au pas, soit ce pouvoir peut subir ce que nous ne voulons pas ». Le président et le pouvoir judiciaire sont à couteau tiré au sujet du système électoral, de la gestion de la pandémie et des poursuites engagées contre Bolsonaro ainsi que contre ses fonctionnaires, sa famille et ses alliés. Lors d'un autre événement à São Paulo, Bolsonaro a juré que « seul Dieu me fera sortir de Brasilia ». Plusieurs analystes voient dans cette attaque contre le système judiciaire une tentative du président de consolider son administration, qui, selon les sondages, a une cote négative de plus de 60%. De plus, toujours selon les sondages, il perdrait les élections de 2022 contre son rival quasi certain, l'ancien président Lula da Silva. Lula a critiqué l'actuel président en termes sévères sur Twitter, où il a déclaré « Au lieu d'annoncer des solutions, il appelle les gens à des confrontations, à des actes contre les pouvoirs et la démocratie. Ce n'est pas ce que le Brésil attend d'un président », a déclaré Lula, qui a gouverné le pays sud-américain entre 2003 et 2010. Voilà comment ont couvert la nouvelle certains médias français, notamment France 24 et France Culture.
Depuis des semaines, les traditionnels soutiens de Jair Bolsonaro relayent sur les réseaux sociaux ces appels à marcher contre la Cour suprême et le Congrès, suscitant la crainte d'un scénario calqué sur l'invasion du Congrès américain par des partisans de Donald Trump en janvier dernier. Le président brésilien assure quant à lui qu'il n'y a aucun risque de coup d'État en cette journée du 7 septembre, mais en même temps il parle d'ultimatum contre les juges de la Cour suprême et a laissé entendre qu'il pourrait être contraint d'agir en dehors du respect des règles de la Constitution. Alors ce qui fait craindre des débordements, c'est notamment la mobilisation estimée cette fois massive de policiers armés dans les rangs des partisans du président, mais aussi le risque d'affrontement, car des rassemblements de l'opposition sont prévus un peu partout aussi aujourd'hui dans le pays. Jair Bolsonaro voudrait cette mobilisation comme une grande démonstration de force au moment où il fait l'objet de plusieurs enquêtes de la Cour suprême, notamment pour avoir menacé la tenue du prochain scrutin présidentiel en 2022. Mais il y a aussi les affaires de corruption, celles liées à l'achat de vaccins et celles qui touchent à sa famille. Quatre de ses fils et son ex-épouse font l'objet d'enquêtes judiciaires.
C'est sous un soleil de plomb que des milliers de sympathisants du président Jair Bolsonaro se sont donné rendez-vous en ce 7 septembre sur cette esplanade, tout un symbole puisqu'elle relie les ministères à Brasilia jusqu'à la place des trois pouvoirs où se font face le palais présidentiel et le tribunal suprême fédéral. Un bras de fer qui oppose Jair Bolsonaro, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire depuis de nombreux mois, puisque la plus haute autorité juridique du pays s'oppose au président dans la gestion de la crise sanitaire, mais également en enquêtant sur lui et ses proches pour dissémination de fausses informations et corruption. Dernier bras de fer en date, le vote électronique très critiqué par Jair Bolsonaro, soupçonné de provoquer des fraudes lors des prochaines élections présidentielles en octobre 2022.
Nous sommes ici aujourd'hui pour défendre le droit le plus fondamental des êtres humains, qui est la liberté d'expression. Nous voulons la liberté dans nos pays. On ne peut pas être gouverné par la Cour suprême. Nous n'avons pas voté pour les juges, mais pour le président. On veut avoir le droit d'être gouverné par lui.
Dans ce tribunal, il y a une faction criminelle communiste qui s'allie au Congrès national et qui est soutenue par le Premier ministre communiste chinois.
Tradition pour le président brésilien Jair Bolsonaro de venir s'exprimer et d'haranguer la foule de sympathisants. Lors de ce 7 septembre, il s'est exprimé sur cette scène de Brasilia pour demander la destitution de certains juges du tribunal suprême fédéral. Il leur a lancé un ultimatum : laissez-nous gouverner. Parmi ses sympathisants ici dans la foule, nombreux sont ceux qui demandent une intervention militaire contre ce tribunal fédéral suprême.
C'était hier 7 septembre, jour de la fête nationale au Brésil. Fête dont Jair Bolsonaro a voulu faire cette année une démonstration de force. À plus d'un an de la présidentielle, prévue en octobre 2022, le président contesté avait appelé ses soutiens à manifester. À Brasilia, mais surtout à Sao Paulo, ceux-ci sont descendus dans la rue par dizaines de milliers. Le président qui s'est rendu dans les deux villes a multiplié devant ses partisans les attaques contre les institutions, la Cour suprême en particulier, et le système électoral. « Je veux dire à ceux qui veulent me rendre inéligible, seul Dieu m'enlèvera du pouvoir », a-t-il lancé. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Amérique latine, auteur de « L'Amérique latine au défi de sa reconstruction » dans l'ouvrage « L'année stratégique 2022 » sous la direction de Pascal Boniface aux éditions Armand Collin. Alors d'abord, pour comprendre, il faut revenir sur ces attaques visant la Cour suprême. Si Bolsonaro a des mots aussi durs, c'est que cette Cour suprême a ouvert plusieurs enquêtes qui peuvent menacer le président brésilien. Quelles sont ces enquêtes? Sur quoi portent-elles?
Alors ces enquêtes en fait partent au départ du tribunal électoral qui a sollicité en fait le tribunal suprême, donc la Cour suprême en quelque sorte, pour lancer des procédures contre le président Jair Bolsonaro au sujet de la divulgation de fausses nouvelles suite aux déclarations qu'a fait Jair Bolsonaro publiquement et sur les réseaux sociaux relatives au fait que selon lui, le système de vote électronique brésilien ne serait ni légitime ni fiable. Et donc, c'est là où il a demandé, alors ça paraît comme quelque chose d'assez technique au départ, une procédure qui permette un recomptage manuel des votes. Et c'est ça le point de départ. Parce que la requête, non seulement elle est pour fausse information, divulgation de fausses informations, mais elle a aussi un volet financier. C'est-à-dire que l'enquête comprend le fait de savoir comment Jair Bolsonaro et comment ont été financées finalement l'organisation des mobilisations d'hier qui n'ont pas été appelées le 6 septembre, mais depuis des semaines et des semaines. Et comment tout ça a été financé.
Ils ne sont pas forcément très spontanés. Quoi.
Voilà, donc l'idée de la Cour suprême maintenant et du juge Alexandre de Moraes, qui est maintenant la cible de Bolsonaro, c'est aussi d'enquêter sur ce volet financier des mobilisations. Et ce juge est important parce que l'année prochaine, l'élection présidentielle, vous l'avez dit, en octobre 2022, eh bien ce juge de la Cour suprême deviendra, comme le prévoit la Constitution, le président du tribunal électoral qui donc siégera ou qui aura le mandat pendant la présidentielle. Donc on comprend un petit peu mieux le contexte immédiat de ces mobilisations et du discours du président Bolsonaro.
Y a-t-il effectivement une possibilité que Bolsonaro soit déclaré inéligible ?
Alors en tout cas, hier, il a enfoncé un clou dans ce sens-là, puisque ses propos qui ont évidemment percuté, il les a tenus à dessein, disant qu'il n'accepterait pas la décision, quelle qu'elle soit, du juge Alexandre Moraes et donc derrière lui de l'institution qu'il représente, la Cour suprême, qu'il ne les appliquerait pas. Eh bien, pour beaucoup de juristes au Brésil, et on peut penser au-delà, eh bien, c'est un motif d'un nouveau processus d'impeachment, comme on dit en anglais, de destitution, que prévoit la Constitution brésilienne en cas de crime de responsabilité. Donc la question maintenant, c'est est-ce que la Cour suprême et ses 11 juges vont considérer que les propos d'hier sont une atteinte à la dépendance d'un des pouvoirs de l'État, la Cour suprême, et à l'harmonie, finalement, entre ces institutions de l'État? Est-ce qu'ils vont considérer ça et considérer qu'il y a matière à de nouveau lancer une tentative de procédure de destitution du président qui ne pourrait intervenir qu'à partir d'une décision du Congrès, puis de la Chambre des députés et enfin du Sénat, qui aurait le dernier mot? On n'en est pas là pour deux raisons. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Bolsonaro a une alliance solide au sein du Congrès qui lui garantit certainement que pour l'instant ça ne passerait pas. Et en plus, le président de la Chambre des députés est un allié proche, M. Lira, de Bolsonaro. Donc il a quand même quelques verrous et quelques atouts dans son jeu aussi pour même empêcher, si jamais cette procédure partait, de pouvoir réellement aboutir.
Alors justement, l'État a plus d'un an du scrutin. Bon, le contexte au Brésil, c'est aussi la crise sanitaire extrêmement mal gérée par Jair Bolsonaro. Clairement, il est en mauvaise posture face à Lula, qui pourrait revenir au pouvoir. Ce qui s'est passé hier, c'est une réaction de panique, finalement. Est-ce que c'est la preuve même de son affaiblissement?
Alors, c'est à la fois effectivement une réaction par rapport à un affaiblissement, une érosion de sa popularité qui est très nette. Jamais il a été aussi bas dans les sondages. Toutefois, j'ai envie de dire, à l'instar par exemple de Donald Trump, il conserve un socle qui lui est indéfectiblement fidèle. Et Bolsonaro gouverne d'abord pour eux. Ses adversaires, il sait qu'il ne pourra jamais les récupérer. Donc il veut les mobiliser, il veut les électriser, les préparer pour cette campagne qui va démarrer, qui va être très rude entre lui, probablement Lula, effectivement, peut-être d'autres candidats de la droite traditionnelle brésilienne, avec contre lui le Congrès, le tribunal électoral, etc. Donc c'était ça l'objectif, et de ce point de vue-là, c'est pas un échec, hein, ce qui s'est passé hier. Ça bouleverse pas le paysage, genre certains avaient parlé de coup d'État, etc. Bon, mais fondamentalement, il n'y a pas eu de renversement des pouvoirs brésiliens, même si c'est pas un échec quand même, parce que vous l'avez dit, beaucoup de monde dans les rues pour lui. Il a mobilisé ses troupes, c'est ce qu'il voulait. Il l'a fait, il a montré qu'il avait quelques armes, même comme animal blessé, il peut encore mordre fort, Bolsonaro. Et ce qui va être déterminant, à mon avis, dans l'année qui vient, c'est est-ce qu'il va survivre aux effets sociaux de la crise sanitaire et économique qui est très forte au Brésil. Il y a eu plus 8% de pauvreté en un an. Vraiment, il y a 20 millions de personnes qui ont faim au Brésil, beaucoup de chômeurs, etc. Qu'est-ce qu'il va faire face à ça? Il a décidé d'ouvrir les robinets, d'essayer de financer les programmes sociaux, etc., etc. Tout va se jouer là.
Et hier, il y avait aussi des manifestations anti-Bolsonaro. Alors, ils ont moins fait parler d'eux parce que c'était moins spectaculaire. L'élection présidentielle, Christophe Ventura, on l'a dit, est dans plus d'un an. C'est loin. Le Brésil peut-il encore tenir aussi longtemps dans cet état de tension et de polarisation que vous décriviez?
Alors, ces manifestations des opposants, elles ont eu lieu. Il faut admettre aussi qu'elles n'ont pas été vraiment massives non plus. Hein. Donc, ça montre que, si vous voulez, au Brésil, il y a des camps très polarisés, très militants, qui s'affrontent tous les jours. Mais il y a aussi une sorte de ventre mou de la population brésilienne dont on ne sait pas bien comment elle va se comporter dans les mois qui viennent, qui pour l'instant observe, qui s'est en partie défaite de Bolsonaro pour qu'elle avait voté en 2018. Et est-ce qu'elle va retourner vers lui? Est-ce qu'elle va retourner vers la droite ou vers la gauche? Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit, sauf si c'est Lula qui se présentait, parce que dans ce cas-là, il gagnerait. Il a une équation personnelle qui dépasse la logique et dynamique des partis au Brésil. Donc tout ça est très incertain. En réalité, on n'en sait rien. Est-ce que le Brésil va tenir jusqu'à 2022? Il y a plutôt à le souhaiter, parce que si jamais Bolsonaro, par ailleurs, tombait par destitution, etc., ben, ce serait son vice-président qui terminerait le mandat, qui s'appelle Hamilton Mourão et qui est un général de l'armée. Donc ce seraient les militaires qui sont déjà largement au pouvoir au Brésil qui termineraient un mandat dans ce pays qui aurait une démocratie déchirée.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.